Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Face au défi des développements auxquels sont confrontés la plupart des provinces de la RDC, plus particulièrement la province du Sud-Kivu, le gouverneur de cette province, Jean-Jacques Pourroussi, a choisi la gouvernance de proximité et les devoirs de redevabilité vis-à-vis de la population comme méthode de gestion. Deux mois après son arrivée à la tête de la province, il s'est exercé un devoir de redevabilité lors d'un meeting tenu au mois de septembre dernier au stade du Kadutouabou. Bukavu, où il a étalé les bilans de sa gestion pendant les mois de juillet et d'août 2024 sur le plan sécuritaire, infrastructurel, minier et financier. Sur le plan financier, par exemple, il a annoncé que sur les 195 000 dollars américains trouvés dans les caisses de l'État lors de sa prise de fonction au mois de juin dernier, la province a mobilisé au mois d'août dernier plus de 1 503 000 dollars américains comme recettes grâce à la mobilisation et à la canalisation des taxes. Il a par ailleurs aussi remis symboliquement des chèques de 60 000 dollars américains réparti en deux tranches aux responsables des entités territoriales décentralisées des territoires d'Uvira, Fizi, Chabunda et ainsi qu'aux villes de Baraka et d'Uvira pour exécuter les projets de développement dans leurs entités respectives. Et cependant, tout en appréciant cet exercice de redevabilité vis-à-vis de la population, d'aucuns estiment que cela ne doit pas relever du populisme et qu'il faudra par ailleurs maintenir ce mode de gestion et aussi mettre en place au sein de la province des mécanismes de suivi, de contrôle et d'évaluation sur le terrain pour s'assurer des l'effectivité des projets liés au développement de la province. Que pensez-vous du devoir de redevabilité comme mode de gouvernance pour le développement de province? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 9716-80-79. Paul Badianyama est à la mise en onde de ce magazine réalisé et coordonné par Julie Feza Bongonda. Il a également Nelson Nyom et aussi Paul Badianyama qui assure la diffusion en direct de ce magazine sur les plateformes digitales de Radio Capi, à savoir Facebook, YouTube et X. À toutes et à tous, et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs au micro, c'est Marcel Ngombombala.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Bienvenue encore une fois si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens Parole aux auditeurs et aujourd'hui pour parler de défis de développement dans nos provinces et spécialement pour aujourd'hui de la province du Nord du Sud Kivu, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Jean-Jacques Pourroussi, gouverneur de la province du Sud Kivu. Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait depuis être à la tête de cette province depuis le mois de juin 2024 et déjà vous avez au cours d'un meeting tenu à Kadutu à Bukavu au mois de septembre dernier essayé de faire une espèce de bilan de votre action depuis que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les défis auxquels la province du Sud Kivu est confrontée pour son développement et qu'en est-il des actions déjà menées face à tous ces défis?
Merci beaucoup. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de la province du Sud Kivu au mois de vers le 24 juin 2024, nous avons trouvé une province qui fait face à énormément de défis, parmi lesquels il y avait la pauvreté, la misère, l'insécurité grandissante. Les caisses de l'État étaient vides, donc il y avait détournement des deniers publics. Il y avait les routes qui n'étaient pas vraiment, les travaux des infrastructures n'étaient pas avancés. Nous avons trouvé par exemple l'axe principal qui était déjà financé en grande partie, c'est-à-dire Bukavu, Kamanyola ou Vira, qui n'était qu'à 4 km. Nous avons trouvé des chantiers qui avaient déjà été financés mais qui n'ont jamais démarré. Eh bien, nous avons aussi trouvé une pléthore de fonctionnaires qui étaient là, qui touchaient de l'argent de l'État mais qui n'étaient pas au travail. Voilà, nous avons trouvé qu'il y avait une distance entre les dirigeants d'antan et la population. Donc il y avait une coupure entre les dirigeants et la population. Il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de proximité. Il y avait aussi le fait que les dirigeants n'allaient pas sur le terrain pour aller voir ce qui se passait. Hein. Donc, il n'y avait pas vraiment des itinérances dans les territoires. Voilà pourquoi nous sommes arrivés. Nous avons aussi trouvé, donc, la première chose que nous avons faite, c'était de conduire un audit organisationnel, institutionnel et financier de certains secteurs clés. Et parmi ces secteurs, il y a le secteur minier que nous avons audité, le secteur des infrastructures. Nous avons audité aussi le secteur des finances publiques, l'agriculture, l'élevage et la pêche, ainsi de suite. Les résultats étaient qu'effectivement, le secteur minier était générait énormément d'argent, beaucoup de millions. On est arrivé au résultat selon lequel il y a plus de 500 entreprises chinoises, essentiellement, qui exploitaient illégalement dans les territoires des Fizi, Mwenga et Chabunda.
Quand vous dites illégalement, c'est-à-dire ?
Sans documents, sans bureaux, sans enregistrement. D'autres qui exploitent avec des permis de recherche, mais ils font de l'exploitation. Il y a d'autres qui n'ont ni permis de recherche, ni permis d'exploitation, mais qui exploitent à travers des citoyens congolais, des coopératives sur des périmètres concédés, en détruisant l'environnement, hein, c'est-à-dire on déverse des tonnes d'acides, enfin des produits chimiques dans les rivières, notamment les rivières Elila et Olindi, détruisant ainsi les écosystèmes, les plantes, ainsi de suite, les arbres. Il y a beaucoup de violations des droits de l'homme hein, dans ces sites miniers. Il y a la prostitution très très bien organisée, des travaux impliquant les enfants dans les sites miniers, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous avons pris la décision de suspendre toute activité minière hein, sur l'ensemble du territoire de la province du Sud Kivu pour essayer d'y mettre de l'ordre. Lorsque nous avons suspendu cette activité, nous avons convoqué toutes les entreprises opérant dans ces zones. Nous avons convoqué toutes ces entreprises à Bukavu. Et lorsqu'elles sont arrivées à Bukavu, au lieu des 147 entreprises qu'on attendait, parce que c'est ça la liste qu'on avait, au fait, selon nos recherches, on en a reçu 541 entreprises, toutes illégales. Et donc, on a mis de l'ordre, on a créé donc ce qu'on appelle un acte d'engagement. On leur a exigé d'abord à commencer par payer, à faire un geste, parce qu'ils ont exploité pendant des années sans payer. Et donc là, en 3 semaines, nous avons eu dans les caisses de l'État jusqu'à 550 000 dollars américains. À côté de ça, il faut dire que nous leur avons imposé maintenant un cahier de charge. Donc il faut qu'ils signent d'abord les actes d'engagement. Il y en a 12, parmi lesquels il faut contribuer à l'ouverture des accès routiers à travers, en utilisant leurs engins, que nous avons réquisitionné des forces d'ailleurs, au nom de l'État. Deuxièmement, nous avons demandé qu'ils puissent contribuer, qu'ils puissent ouvrir des bureaux dans la province, ce qui est en train d'être fait progressivement. Nous avons aussi demandé qu'elles puissent contribuer à l'ouverture, hein, donc à établir des cahiers de charges, celles qui sont en ordre, avec la population locale. Il y a aussi la contribution à la protection de l'environnement. Nous avons aussi exigé qu'elles puissent, ces entreprises puissent s'impliquer dans la production agroalimentaire hein, au profit de la population. Donc chaque territoire va disponibiliser entre 500 et 1500 hectares selon les chiffres d'affaires de l'entreprise pour pouvoir cultiver la nourriture au profit de la population.
Donc si je comprends, vous avez d'abord commencé par mettre de l'ordre dans les secteurs miniers, mais là vous avez également rendu votre bilan sur le plan infrastructurel. Mmh. Est-ce que déjà il y a des infrastructures au niveau soit de la province ou de la ville de Bukavu qui ont pu être menées?
Oui, tout à fait. Si vous me permettez de revenir sur
rapidement,
le secteur minier, je dois juste dire que nous avons aussi décidé de créer une société provinciale des minerais.
Ok.
Cette société provinciale des minerais, c'est comme ça d'ailleurs qu'à l'époque, la Gécamine, la Somenki ont été créées. Le seul moyen, à notre avis, de récupérer la souveraineté minière de la province du Sud Kivu et de la RDC en général, c'est qu'on puisse créer des sociétés appartenant à l'État. Et c'est comme ça que la province du Sud Kivu, nous avons créé la société provinciale des minerais, et cette société provinciale, c'est elle maintenant. Donc une entreprise qui veut venir signer un contrat, donc travailler dans telle zone, doit d'abord venir à la province, prendre un engagement. Donc nous sommes en train de travailler avec le ministre national des mines pour finaliser cet engagement. Et donc les actionnaires seront le gouvernement provincial, mais aussi les entités territoriales décentralisées, notamment les chefs de groupement, les chefs de chefferie. La société civile sera aussi la partie pour surveiller tout ça. Et donc, nous pensons qu'avec ce mécanisme, nous allons être capables de faire en sorte que les minerais rapporte de l'argent, rapporte de la prospérité, au lieu d'être facteur de misère, des conflits, comme nous le vivons souvent. Bon, il faut dire maintenant pour le secteur des infrastructures, comme je le disais, lorsque nous sommes arrivés, il y avait quasiment zéro réalisation. Il y avait des entreprises qui avaient obtenu l'argent de l'État et qui étaient opérationnelles depuis 2011, mais force est de constater qu'ils n'avaient fait... Bon, il y a une entreprise qui n'a fait que 4 km hein, lorsque nous sommes arrivés, c'est-à-dire de Nyantende à l'UEA, l'Université évangélique en Afrique, pour ceux qui connaissent le Sud Kivu, jusqu'à Nyantende, ils avaient déjà seulement fait 4 km. Nous avons convoqué cette entreprise, c'est sur l'axe Bukavu, Kamanyola, Uvira. Lorsque nous avons convoqué cette entreprise, nous leur avons donné des instructions. Nous avons d'abord créé une équipe pour aller vérifier, hein, donc une équipe de techniciens pour aller vérifier la qualité des travaux et l'état d'avancement de ces travaux. Alors, nous avons donné des impositions, hein, nous avons instruit ces entreprises. S'ils veulent rester, ils doivent travailler autrement. Il faut qu'ils travaillent un gant du jour et un gant de nuit. Il faut qu'ils travaillent d'arrache-pied et qu'ils utilisent les matériaux qu'il faut et les équipements qu'il faut. Nous avons fait notre part en facilitant l'entrée sur le territoire de la province de leurs équipements. Mais de l'autre côté, ils sont en train de travailler jour et nuit. Et ceux qui le savent, ceux qui connaissent, ceux qui ont visité récemment Bukavu et le Sud Kivu en général, qu'ils soient nos ennemis ou pas, ils doivent quand même reconnaître que nous avons trouvé 4 km. Aujourd'hui, ces gens sont à 29 km sur l'axe. Ils sont maintenant à Nyangezi. Et ils ont commencé les escarpements de Ngomu, ce qui est une très bonne chose. Et moi, personnellement, je passe par là à pied pour aller vérifier avec nos techniciens. Ceux qui connaissent la ville de Bukavu savent que lorsque nous sommes arrivés, il y avait 0 km de route faite. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à plus de 15 km hein, qui a été fait entre Amsar et l'Université évangélique en Afrique.
Voilà, on n'aura pas le temps d'énumérer toutes les actions ici, mais vous avez choisi comme mode de gouvernance, et c'est le plus intéressant, le devoir de redevabilité. Vous avez tenu un meeting, en tout cas, à Kadutu, au stade. Et puis là, vous avez parlé de la situation que vous avez trouvée. Vous avez même remis symboliquement des chèques de 60 000 dollars à des temps plus entités. Et il y a ceux qui estiment que c'est du populisme.
Oui, oui, les ennemis sont là. Il faut savoir que lorsque vous attaquez à la mafia, à la drangheta, il y aura toujours des résistants. Et les mafieux, il y en a beaucoup, hein, au Congo, au Sud Kivu particulièrement, où nous avons de la résistance, une résistance farouche. Mais le plus important, nous avons compris le jeu. Et le jeu consiste d'abord à revenir vers la population qui est le souverain primaire, à s'approcher de cette population, à essayer de comprendre. Et donc moi, et avec tous les membres du gouvernement, nous avons décidé d'aller vers la population. Nous marchons, nous habillons simplement comme la plupart de nos citoyens. Nous parlons nous visitons les boutiques, nous visitons les prisons, nous visitons les marchés. Nous parlons avec les gens de la petite classe économique, sociale, comme on peut dire. Et nous parlons aussi avec toutes les classes. Et lorsque nous parlons avec toutes les classes, nous comprenons les défis auxquels la population est confrontée. Et là, nous rendons des comptes. Donc on s'est dit, on doit être redevable, parce que ceux qui nous ont mis là-bas, c'est cette population. N'en déplaise aux ennemis de la paix, aux ennemis, lorsque vous venez bouger les lignes, bien sûr, les ennemis ne manquent jamais. Mais la première chose que nous avons faite, et comme on a prévu, on a promis pendant la campagne électorale, nous avons dit que lorsque nous prenons le pouvoir à la tête de la province, si la population nous donne ses chances, nous allons d'abord effectuer des itinérances sur le terrain. Et effectivement, je suis allé à Shabunda, je suis allé à Uvira, je suis allé à Kalehe, je suis allé à Walungu, je suis allé dans d'autres territoires comme Kabare. Bientôt, nous allons aller à Idjwi, Mwenga et Fizi, c'est les 3 territoires qu'on n'a pas encore visités. Et là, nous amenons tous les conseils de sécurité, nous amenons la société civile avec, nous amenons les organisations des femmes, des jeunes et des droits de l'homme. Là, nous comprenons ce qui est en train de se passer, nous écoutons, nous visitons, et je peux vous dire sans aucune hésitation que nous sommes arrivés à Matili. Bon, la population là-bas, c'est à la frontière, c'est à Chabunda, à la frontière avec le Maniema. Il paraît que depuis 39 ans, la population n'avait jamais vu un gouverneur là-bas.
Voilà. Alors, monsieur le gouverneur, on sent en vous ce souci d'une gouvernance de proximité. Et Vous pensez que ça va se poursuivre comme ça? Il y a des gens qui estiment que ça peut être de façon ponctuelle, mais ça va devenir toute une tradition tout au long de votre action à la tête du gouvernement. Ça sera une tradition?
Non, ça sera une tradition. Les gens qui me connaissent savent que nous avons institué une marque de fabrique. On n'a pas inventé la rue, hein. On a juste écouté la population. On a compris que sa revendication première était qu'on l'écoute, qu'on aille vers elle, qu'on lui donne de l'importance. Et ça qu'on est en train de faire. Donc deuxièmement, c'est vraiment rendre des comptes. Ceux qui sont en train de payer cet argent, les taxes, ainsi de suite, ce sont les citoyens. Nous avons trouvé que les collègues, mes prédécesseurs, généraient un chiffre d'affaires total pour toute la province d'environ 500 000 dollars américains. Dès le premier mois, nous avons intimé un certain nombre de mesures. Nous avons généré plus de 1 500 000. OK. Maintenant, nous sommes partis rendre des comptes à la population. Nous avons appelé la population dans le stade de Kadutu. Et merci à cette population et à tous les dirigeants, à tous mes collègues membres du Conseil de sécurité, la société civile, les médias. Ensemble, on était là. Et on a amené tous les dirigeants, tous les décideurs pour que, c'est-à-dire les membres du Conseil de sécurité, le commandant de l'armée, la police, l'ANER, tous les dirigeants, les chefs des corps, ils étaient tous là. Et on a appelé la population pour nous poser les questions. D'abord, on a rendu compte. Et rendre compte, c'était de dire, nous avons trouvé, voilà ce que nous avons généré. Vous avez cotisé autant. Et cet argent, c'est quoi? La magouille dans notre pays, vous connaissez comment ça se passe. C'est-à-dire que Mbongozo Bima, Baya Yabo Liango, population de se retrouver.
Qu'est-ce que nous faisons? C'est un système mafieux.
Voilà. Un système mafieux. Ouais. Comme en Italie, la drangueta, la mafia, ainsi de suite.
Voilà, excellent. Permettez, parce qu'il y a des auditeurs qui s'impatientent déjà, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, on va revenir à vous. Il y a des auditeurs qui aimaient déjà intervenir. Nous avons Mos Bissimo qui nous appelle depuis Bukavu, Maître Patrick Odiaki Albumbashi, et puis Ben Bengu, qui est à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Et nous parlons aujourd'hui de la province du Sud Kivu avec tout ce qu'il a comme défi de développement et de ce mode de gestion qu'a choisi le gouverneur de cette province, Jean-Jacques Pourroussi, un mode de gestion qui consiste à une gouvernance de proximité. Si vous voulez intervenir, je vous rappelle le numéro d'appel 609-716-8079. Merci également de nous suivre en direct sur YouTube, Facebook et X Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Amos Bissimo nous appelle depuis Bukavu. Amos, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Capi. Bonjour à l'invité, son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, Jean-Jacques Pourroussi.
Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Amos Bissimo. Oui. Merci.
Merci bien. Au fait, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est encouragé parce que juste à l'arrivée du gouverneur des provinces, nous avons compris qu'il aurait les soucis, mais aussi la volonté de voir la province du Sud qui vous décoller. Mais je dois dire, par rapport au premier secteur et par rapport à toutes les mesures qu'il a eu à prendre, surtout dans le secteur minier, et je l'avais encore dit, le gouverneur aurait la bonne volonté de voir les choses changer. Mais est-ce qu'il aurait la marge de manœuvre? Je doute jusqu'à l'heure où nous parlons. Parce que on a vu, justement, il a suspendu toutes les entreprises du fait que beaucoup n'avaient pas de documents légaux. D'autres n'ont pas respecté le cahier de charge, d'autres n'ont pas respecté la question impact environnemental. Mais par la suite, on a été décidé de constater que ces entreprises ont repris le travail. Et les informations à notre possession seraient que c'est la présidence qui serait impliquée dans l'exploitation illicite des minerais sur toute l'étendue de la République. C'est là que j'ai parlé que le gouverneur pourrait avoir la volonté de changer les choses, mais est-ce qu'il aurait la marge de manœuvre? Ça, c'est pour le secteur minier. Et ces entreprises ont repris, mais je prends seulement le cas des cahiers de charges où ils devaient réhabiliter les routes de dessert agricoles, les hôpitaux et écoles en faveur de la population qui vit dans ces zones minières. Mais jusque-là, le gouverneur lui-même est témoin. Il faut voir la route qui provient de Mwenga pour Bukavu, Shabunda, Ngoche, Walungu et Patfiz, partout où ces gens exploitent nos minéraux. S'agissant de l'activité que le gouverneur a eu à organiser au stade de la Concorde, l'exercice de redevabilité, nous tous nous avons encouragé cet exercice. Parce que dans le cadre de la bonne gouvernance, un dirigeant responsable doit être redevable vis-à-vis de ses dirigés. Et ce que nous avons toujours exigé de la présidence au niveau de la base, c'est-à-dire de la présidence au niveau de Nyumbakumi, comme on les appelle communément ici chez nous à Bukavu, pour ne pas parler des chefs d'avenue. Et toutes les questions qu'il a eu à évoquer, ce qui est vrai, il y a certaines choses qui marchent. Il y a certaines choses qui marchent, mais la population voudrait voir plus. Par exemple, la question de la voirie urbaine à Bukavu. La voirie urbaine est en délabrement très avancé et le gouverneur en est conscient. Parce que ce qui intéresse la population, ce sont des actions palpables à sa faveur. Des actions palpables à sa faveur. Nous avons encouragé les mesures qu'il a eu à prendre même pour ce qui est de la protection de l'environnement. Parce qu'actuellement, pour ce qui est du parc national de Gaouzi-Biega, il y a destruction méchante de certaines personnes de mauvaise foi. Et le gouvernement a pris des mesures et nous voudrions voir des actions concrètes sur terrain. Parce qu'on connaît le mal du Congo. On peut prendre des mesures. On a déjà pris beaucoup de mesures au Congo, mais le suivi, c'est là où ça blesse.
Voilà, merci. Merci Amos. Merci Amos Bissimoa, vous nous appelez du Bukavu. Je sais que vous avez beaucoup à dire par rapport à l'action du gouverneur Jean-Jacques Porusi depuis qu'il a la tête de cette province. Merci d'avoir appelé depuis Bukavu. Vous avez parlé des actions sur le terrain qui doivent être effectives et surtout vous avez cherché à savoir pour le secteur minier qu'est-ce que, si vraiment le gouverneur aura une marge de manœuvre. Merci d'avoir appelé depuis Bukavu. On va à Lubumbashi pour retrouver Maître Patrick Odia. Maître Patrick, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour au professeur Jean-Jacques Porusi, le gouverneur. C'est pour moi un plaisir d'intervenir dans cette émission. Je pense que nous avons eu également autrefois la chance de discuter sur cette question de redevabilité impliquée ou implantée par le gouverneur. Et aujourd'hui, nous l'avons dans les studios, Dieu faisant grâce. Je pense que dans nos habitudes congolaises ou dans le principe directeur de management politique, il est conseillé de pouvoir appliquer la redevabilité qui est un des principes de bonne gouvernance. Et le professeur, j'allais dire le gouverneur, lui étant un ancien chevronné des Nations Unies, il a compris l'importance de ce principe de la redevabilité et de la proximité. Pourquoi je donne des avantages de cette redevabilité ou de cette façon de gérer? Parce que ça aide la population de devenir ou à devenir des alliés dans l'action gouvernementale. Il peut s'agir également qu'il y ait des orientations et des réorientations également par les soucis de pouvoir satisfaire le peuple congolais pour lequel on est en train de travailler. On n'est pas gouverneur pour le chef de l'État, mais on est gouverneur pour être au service du peuple. Donc la redevabilité en soi, si les autres voient à l'application de ces principes comme étant le populisme, moi je m'inscris en faux. Pour autant que les bavures, les antivaleurs que nous avons toujours décriés, et quand il y a un gouvernant ou un gouverneur qui essaie de se distinguer en appliquant les principes directeurs de la bonne gouvernance, il y a lieu de faire de la communication, voire même du populisme, pour autant que ça favorise la bonne gouvernance. Je n'ai pas un problème particulier tant à ça. Mais deuxièmement également, monsieur le gouverneur, vous avez suspendu, vous avez fait tout ce que nous avons appris, mais nous apprenons, nous, à Lubumbashi, qu'au niveau des sites qui vous, il y a un désordre systémique et bien réglementé. Nourri par la présidente de la République, nourri par certains généraux de l'armée, nourri par certains hommes politiques également proches du parti également au pouvoir ou de l'Union sacrée. Est-ce que vous avez pris le temps de pouvoir peser la valeur, j'allais dire, les poids de vos mesures en suspendant et surtout un suivi régulier dans l'exécution et le respect de ces mesures? Il y a lieu même dans les Haut-Katanga, le Laba et autres, on prend des mesures, mais pour assurer vraiment l'exécution réelle de ces mesures prises par les gouverneurs et l'autorité politique, ça pose problème. Est-ce que vous avez déjà été, vous, gouverneur, main sur blanc, je pense que vous prendrez également votre courage, est-ce que vous avez été déjà menacé
parce que vous avez pris de telles mesures. Surtout qu'il s'agit de Sud Kivu, une province entre guillemets menacée. Ça, c'est autre question également que le gouverneur pourra également nous répondre. Oui. Parlons-en alors, parce qu'il s'agit également de la redevabilité. Monsieur le gouverneur, vous avez dit que vous avez trouvé 195 000 dollars, quelque chose, et aujourd'hui vous êtes à 1 500 000. Pour une province comme le Sud Kivu, où il y a beaucoup de minéraux et beaucoup de ressources, et même une province frontalière, vous tapez la main pour avoir 1 500 000. Si bien qu'il y a des avantages, mais je pense que pour une province à la tête du Sud Kivu, vous ne pouvez pas être fier de 1 500 000, qui n'est pas un chiffre aussi costaud comme on peut également l'entendre. Est-ce que vous avez des stratégies que vous avez mises en place pour accroître vraiment les ressources financières pouvant permettre au développement de la province également? Vous pouvez également soutenir les infrastructures. Nous apprenons qu'il y a de l'insécurité, il y a des tueries par-ci par-là, si bien que ce sont des cas généraux, mais ici aussi, qui vous, j'allais dire, dans les cas de votre province, nous apprenons qu'il y a l'insécurité à un niveau très élevé. Quelles sont les mesures que vous avez prises ou que vous prévoyez prendre qui sont efficaces de manière objective, qui permettront à ce que le peuple sud qui, j'allais dire, le peuple qui habite le sud qui vous, ce soit.
Voilà. Merci, maître Patrick Odia. Il y a beaucoup d'auditeurs qui aimeraient également intervenir, mais on a compris votre souci, par rapport à tout ce que le gouverneur de province est en train de mener comme action. Vous voulez vous assurer que ces défis, vont être réalisé au fur et à mesure qu'il sera à la tête de cette province. Vous avez également peut-être estimé que 2 mois après sa gestion à la tête de la province, parler de 1 503 000 dollars de recettes pour vous, c'est pas suffisant. Il va s'expliquer par rapport à cela. Merci maître Patrick Odia d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Ben Bengou, vous êtes à Kinshasa et vous avez la parole.
Ok, bonjour. Je salue le gouverneur.
Oui, bonjour.
Moi, je m'inscris dans la logique totalement d'encouragement, parce que ce qu'il fait, ça fait, comme vient de dire maître Patrick, ça fait de lui l'allié, et ça fait de la population plutôt son allié fidèle, et il peut en avoir d'orientation. Mais laissez-moi un peu intervenir. Moi, j'ai été intéressé par l'émission en ma qualité d'initiateur d'une structure sociale dénommée Action collective contre les antivaleurs. Et cette méthode plutôt de gestion du gouverneur qu'il a adoptée, pour moi, c'est un garde-fou contre les antivaleurs, parce que il raconte à la population de ses actions. J'ai énuméré les avantages. D'abord, la population prend conscience de la nécessité de le soutenir et de travailler ensemble avec lui à cause de cet exercice de rendre compte au bout de 2 ou 3 mois comme il en a l'habitude. Maître Patrick vient de dire quelque chose et son contraire, bien que je ne suis pas engagé là pour un débat ou commenter contre les commentaires de mes prédécesseurs. Regardez un peu. Il montre au gouverneur combien sa marge de manœuvre est limitée parce que la présidence, les généraux et les politiciens font exercent leur influence négativement pour les mines. Mais en même temps, il lui dit qu'il ne peut pas être fier d'avoir des recettes assez supérieure à ce prédécesseur. Mais vous savez qu'il n'a pas la marge de manœuvre. Moi, je pense que dans la logique où moi je perçois la question...
Ben, vous êtes toujours en ligne? Apparemment, Ben n'est plus en ligne. On va rester... on va aller plutôt cette fois-ci à Bandaka pour écouter Maître Naomi Bofuki. Maître Naomi, vous avez la parole.
Merci beaucoup de m'avoir associé à ce niveau du débat. Merci aussi à son excellence qui est au studio. Merci à vous, Marcel.
Merci.
Alors, je tiens à féliciter Monsieur le gouverneur pour son sens de redevabilité. Il connaît au fait ce qu'il doit faire et il sait que c'est le peuple qu'il est en train de servir et non... se servir lui-même. Alors, je l'encourage d'aller de l'avant, mais seulement il doit accompagner cette méthode de la bonne gouvernance au contrôle et au suivi de ses actions. Parce que s'il ne le fait pas, il risque de faire porter le chapeau aux autres pendant que son travail ne sera pas bien fait. Mais seulement, je voulais qu'il puisse nous parler en termes de réalisation claire et nette de ce qu'il a déjà fait pendant qu'il est là, je crois, 6 mois déjà passés. qu'il nous dise ce qu'il a déjà fait concrètement pour la population des sites Kivu. Pas dans le cadre des PDL 145 territoires, mais dans le cadre des réalisations du gouvernement provincial. Et aussi, j'aimerais que, c'est juste mon avis, que cette manière de faire les choses, donc la redevabilité, doit être contraignante à toutes les autorités ou à tous les gouverneurs de province. Si, comme on est en train de penser à la révision de la Constitution, si on pourrait mettre quelque chose de ce genre dans la Constitution, que ça soit contraignant à toutes les autorités qui ont des fonctions au sein du gouvernement, tant national que provincial, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup, Marcel, et bonne journée.
Voilà, merci à vous également, Maître Naomi, d'avoir, depuis mandat que vous insistez, qu'il faut qu'il y ait aussi des mécanismes de suivi, des contrôles, pour bien évaluer le travail sur le terrain. Et surtout, vous avez cherché à connaître les actions concrètes qu'il a déjà menées depuis qu'il est à la tête de cette province. Merci, Maître Naomi, depuis Mbandaka. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Vous avez la parole, Franck. On vous écoute.
Bonjour à vous tous, bonjour à l'invité. Nos sincères encouragements et félicitations par rapport à ce qui a été fait jusqu'ici. En principe, le devoir de redevabilité, c'est une contrainte qui s'impose à tout gestionnaire au niveau étatique. Et si lui se soumet déjà à cela, c'est une bonne chose et avec espoir qu'on verra les autres gouverneurs des provinces suivent aussi cet exemple et emboîter les pas pour le bien de tous. Et quelquefois, le problème chez nous, c'est on commence par donner de tels exemples et après, ça s'arrête là. Donc, on souhaiterait que ça continue. Et quand on fait des recettes, il faut que toutes ces recettes puissent être canalisées et aussi suivre convenablement la répartition de ce qui a été collecté. Malheureusement, chez nous, parfois, quand il est question de suivi, c'est là où tout dérape. Donc, on souhaiterait voir le gouverneur continuer sur cette percée. On souhaiterait que ceux qui sont dans les sud qui vous nous le disent aussi comme Amos, les autres qui sont en train de voir ce que le gouverneur est en train d'initier. Et c'est aussi peut-être mieux 6 mois après, au lieu de s'arrêter seulement à nous présenter la balance des recettes, mais aussi ses propres actions, comme Maître Naomi venait de le rappeler. Comme ça, ça serait plus concret et direct. Pour le reste, je crois, il faut que ça continue comme ça, qu'on ne s'arrête pas seulement à nous dire, il a récolté, il a donné des chèques. Vous pouvez donner un chèque de $60, 60 000 à quelqu'un. Mais après, les 60 000 ne sont pas convenablement utilisés. On en parle sur médias, mais sur place, là-bas, il n'y a pas d'effectivité, il n'y a pas de traces. Et personnellement, je crois que tout ce qui se débat ici aurait plus d'impact si les bénéficiaires de chaque lieu les voient aussi sur place. Comme ça, ce que nous dirons pourrait être compatible avec ce qui se vit sur place. Là, je crois m'arrêter là.
Voilà, merci beaucoup Franck depuis Vienne en Autriche. Vous également, vous avez insisté sur des mécanismes de contrôle pour s'assurer que l'argent qui a été remis, comme c'est le cas, aux responsables des entités territoriales décentralisées, de s'assurer que cet argent va servir pour la bonne cause. Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. On revient au pays pour donner la parole à Sylvain à Guénorf, qui nous appelle depuis Mahagui, à Nitori. Sylvain, vous avez la parole.
Bien. Moi, je pense que nous avons toujours parlé de cette question de gouvernance des provinces. Monsieur Marcel, il faut noter trois problèmes. Le premier problème, c'est le problème du management de ces provinces. Et le deuxième problème, c'est le problème de la volonté politique. Et le troisième problème, c'est le problème de la constitution qui n'est pas respectée. Vous lisez l'article 3 avec moi. Vous allez comprendre que lorsque ces provinces n'accèdent pas aux fonds destinés à leur développement, eh bien, même si on parle de questions de contrôle, mais on va contrôler quoi? Vous savez, moi j'ai eu le temps de lire hein, les provinces. Les gouverneurs des provinces ont un grand problème de la prison dans laquelle ils souffrent avec leur mentor à Kinshasa, qui des fois leur oblige de rétrocession de fonds produits sur place dans les provinces. Nous parlons de la province du Sud Kivu, mais la situation elle est générale. Je prends le cas d'une province telle que l'Ituri. De tous les gouverneurs qui sont passés, je pense que seul le gouverneur militaire peut jouir de la liberté de gestion de sa province. J'ai connu les autres gouverneurs, j'ai travaillé avec Mamanissa, je les salue en passant. Nous savons les problèmes, c'est au niveau de la mise en place des fonds pour développer ces provinces, ce qui ne se fait pas depuis 2006. Et si nous voulons, et c'est comme ça, moi je vous l'ai dit déjà, dans notre courant politique, les régionalistes et nationalistes, nous pensons qu'il faut déclencher le développement de notre pays à partir des provinces. Ça veut dire doter exactement ces provinces de l'autonomie de gouvernance, de management de leurs fonds produits. C'est ce qui ne se fait pas. Les États-Unis aujourd'hui, s'ils se développent, c'est puisque les États fédéraux ont l'autonomie de gouvernance de leurs moyens financiers humains et consorts. Les problèmes qui se posent à notre niveau, comme je l'ai dit, c'est la vision qu'un chef de l'État doit imprimer à travers les provinces. J'ai peut-être donc l'exemple des provinces de Lualaba. Vous voyez le développement à ce niveau-là? C'est parce que cette province a aussi une petite autonomie de la gestion de ses fonds. Nous avons des mines, nous avons toutes les richesses possibles. Comment comprendre que ces provinces se lamentent autour des questions des moyens? Les problèmes, lorsque, je prends un exemple, lorsque Kinshasa capte toutes les recettes nationales, et vous pouvez interroger les députés, qui d'ailleurs sont les patrons des budgets de notre nation.
Mais voilà Sylvain, on a compris, vous êtes d'accord par rapport à ce mode de gestion du gouverneur du Sud Kivu, mais également vous évoquez d'autres problèmes liés à la gestion de nos provinces face au gouvernement central. Il pourra réagir par rapport à cela. Merci d'avoir appelé depuis Maagianitori et bonne journée à vous Sylvain. Avant de revenir à notre invité, le gouverneur Jean-Jacques Pourroussi, rapidement, je m'en vais lire deux réactions sur la page Facebook des Pars Auditeurs. Olia Salomon, lui écrit depuis Calémie. Personnellement, je tiens à féliciter le gouverneur de la province du Sud Kivu pour les efforts qu'il fournit, mais qu'il ne soit pas seulement des discours. Nous voulons qu'il nous présente la traçabilité de cet argent, aussi voir les effets de cet argent, que ce soit aussi une interpellation pour tous les gouverneurs de suivre ces belles exemples. Et notre réaction, c'est Moïse Kayumba, étudiant à la faculté de droit à l'université de Kisangani, province de la Tchopo. Il nous écrit, nous saluons la thématique et tous les auditeurs de la radio de la paix. À mon humble avis, le devoir de redevabilité envers la population est une bonne méthode du gouvernement choisi par le gouverneur du Sud Kivu, car cela permettra le gouvernement provincial d'être efficace dans la réalisation de ses projets d'action de gouvernement, pas pour trouver des solutions à 100% aux problèmes de la population, mais pour faire le nécessaire, ce qui peut aller à 60 ou 70% de réalisation, même plus qu'aux États-Unis, il y a certains problèmes qui jusque-là n'ont pas été réglés et le gouvernement cherche encore comment monter les mécanismes pour y faire face. Voilà, ça c'était une réaction de Moïse Kayumba sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. On revient à vous, monsieur le gouverneur, vous avez suivi les réactions des uns des autres, bien entendu. En tout cas, on vous félicite par rapport à ces modes de gestion, de redevabilité, mais il y a ceux qui estiment qu'il faut parler également des actions concrètes que vous avez déjà menées. Mmh. Quels sont les mécanismes des contrôles que vous avez mis en place et surtout, est-ce que vous subissez du fois la pression du gouvernement central par rapport à votre travail?
Oui, merci beaucoup. Je remercie d'abord tous les auditeurs qui sont intervenus. Ils ont posé des préoccupations tout à fait fondées et pertinentes. Et vraiment, merci beaucoup. Je dois dire d'abord, avant de répondre aux questions, que je suis venu dans ce métier après plusieurs années en tant que professeur d'université, mais aussi en tant que ancien fonctionnaire Nations Unies. J'ai passé plus de 20 ans dans le système des Nations Unies dans différents pays. Et donc, j'étais quand même habitué à une certaine expérience de la gestion de la chose publique, de la gestion transparente, démocratique, et la culture de redevabilité dans la gestion de la chose publique. Et donc, c'est cette petite expérience que nous essayons de mettre en application dans notre manière de gérer les choses. Deuxièmement, je voulais préciser ici que je ne peux pas faire tout ce que je suis en train de faire sans le soutien d'abord de la population, et je la remercie beaucoup. Mais je voulais aussi dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme beaucoup l'ont vu, il m'a reçu lorsque nous étions à Bujumbura, il m'a dit, je vous soutiens, je suis avec vous, et vraiment je ne vais pas laisser qu'on puisse vous déstabiliser, vous intimider. En tout cas, je suis très ravi de l'action que vous êtes en train de mener, la manière dont vous êtes en train de mener la chose publique. Et vous avez tout mon soutien tant que cette problématique, cette façon de faire s'inscrit dans ma vision, dans ma méthodologie de travail. Je remercie aussi bien sûr le Premier ministre, la Première ministre, qui m'a soutenu, qui me soutient beaucoup aussi, ainsi que les ministres sectoriels, notamment les ministres Pakabumba, au niveau du Sénat, bien sûr, le professeur Modeste Bahati, dont je suis issu de son parti FDC, me soutient beaucoup.
On a demandé que vous avez deux fois de pression des autorités morales, vous avez subi.
C'est ça la rhétorique. Et je dois dire ici, avant de travailler dans ce système, j'ai travaillé ailleurs. J'ai eu quand même à côtoyer des personnalités, comme j'ai commencé avec Boutros Ghali, j'ai travaillé avec Ban Ki-moon, j'ai travaillé avec Kofi Annan, j'ai travaillé avec Guterres, et aussi Ban Ki-moon. Qui va m'impressionner? Quel être humain? Vous avez quand même rencontré des acteurs importants qui ont géré ce monde. On n'est pas de nature à se laisser impressionner. Et puis deuxièmement, on n'est pas impressionnable ni intimidable. C'est-à-dire qu'on mène des actions, mais ce que je dois dire ici, oui, il y a des résistants. Ce n'est pas au niveau des autorités morales, au niveau de la
haute hiérarchie. On a parlé du désordre du secteur minier.
Est-ce que j'ai eu la pression? Oui. Non, contrairement à ce que les gens rencontrent, le président de la République n'est pas dans tout ça. Pas du tout. Nous avons quand même mené un audit et des investigations. Et il me soutient, il m'a dit, le jour où tu entendras... Non, j'ai tout son soutien. Sinon, on n'aurait pas dû créer la société provinciale des minerais pour récupérer, qui est en train de récupérer d'ailleurs, les actifs miniers qui sont illégalement détenus par toutes ces entreprises minières. Et donc, non, nous avons le soutien de la haute hiérarchie. Ceux qui nous combattent, c'est une mafia. Et elle est essentiellement locale. C'est-à-dire ces gens qui coupaient le bois et qui trafiquaient le minerai dans le parc national de Kahuzi-Biega. Nous venons de sortir un arrêté qui interdit tout cela. Bien sûr, il y avait des gens, des dirigeants qui percevaient de l'argent sur ces transactions. Lorsque nous coupons, nous suspendons ça, voilà, les résultats sont là aujourd'hui. On est en train d'avancer dans la bonne direction sur cette lancée. En tout cas, les coupes de bois ont été réduites. Le trafic minier est contrôlé maintenant sur l'axe et la forêt est protégée. Je dois quand même reconnaître que oui, il est déjà arrivé pour moi de faire deux ou trois accidents. Mon convoi a été percuté à 3-4 fois. Deux ou trois fois, si j'ai bonne mémoire. Bon, bien sûr, il y a eu deux de mes policiers qui ont été blessés. Et je sais que ça, c'est une dranghetta, une mafia qui a été organisée localement parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Nous sommes dans une province où 90%, plus de 90% des maisons de l'État, des parcelles de l'État ont été illégalement vendues par des dirigeants qui sont sur place là-bas, dans différents secteurs. Et nous avons signé un arrêté pour récupérer tout cela. Et en tant que mesure, nous sommes en train de mettre en place des mesures d'application. Naturellement, tous ces acteurs ne sont pas contents de cette évolution. Mais cela ne va pas nous intimider parce que nous avons l'appui de nos dirigeants. Nous avons l'appui du président de la République, de la première ministre. Nous avons aussi l'appui de la masse populaire qui est avec nous. Maintenant, en termes des
actions
du secteur minier,
les actions concrètes,
c'est très simple. Lorsque nous sommes arrivés, comme je l'ai dit tantôt, il n'y avait pas évolution dans le secteur des routes. Ceux qui sont objectifs savent très bien qu'aujourd'hui, de Bukavu jusqu'à Nyangezi, la route est goudronnée. Quand nous sommes arrivés, nous sommes à une trentaine de kilomètres. Et que le chantier est maintenant arrivé au niveau, a démarré déjà les escarpements d'Ngomo. Ça, qu'on le veuille ou non, ça c'est un résultat concret, palpable. Quand nous sommes arrivés, le projet Sino-Hydro, avec la République démocratique du Congo, était à 0 km dans la ville de Bukavu. Aujourd'hui, ceux qui sont objectifs savent très bien que la route entre Amsar et l'Université catholique de Bukavu au niveau de Kalambo est déjà totalement goudronnée. Ceux qui sont arrivés savent aussi qu'il y avait quasiment moins de 1 km dans la ville de Bukavu de goudronné, des pavés. Aujourd'hui, nous sommes à une quinzaine de kilomètres, notamment en termes des pavés. Nous venons même d'inaugurer 5 km de plus. Voilà, nous avons le tronçon Amani, centre Amani, pour ceux qui connaissent Bukavu, marché d'Engouba, collège Al-Fadjiri, jusqu'à vers l'hôtel Orchide. Tout cet axe est goudronné et beaucoup d'autres chantiers sont en route, sont en train d'avancer. Maintenant, pour revenir aussi à la rétrocession. Bon, vous l'avez annoncé ici, nous avons fait la rétrocession et cela n'a jamais été fait. Hein. Donc nous avons fait la rétrocession à 4 territoires d'abord. Et donc dès que je rentre, nous allons réorganiser notre rétrocession pour les 4 autres. Eh bien, l'argent a été remis, c'est-à-dire c'est sur base des projets. Hein. Nous avons annoncé ça au stade, mais nous avons demandé aux ETD
d'amener des projets concrets. Nous avons envoyé nos équipes sur place pour aller analyser avec les ETD ces projets, c'est-à-dire les chefs de groupement, les chefs de chefferie. Nous avons analysé donc, les bourgmestres et les maires, ainsi de suite, les chefs de quartier, les chefs d'avenue. On a réceptionné des projets. Nos équipes spécialisées chargées du suivi et de l'évaluation ont décortiqué tout ça. Lorsqu'ils ont trouvé que c'était fondé, ils ont d'abord donné 30 000 par entité pour exécuter la première partie du projet. Et pour la finalisation, on va encore donner 30 000. Mais nous allons faire les suivis et l'évaluation. Et s'il y a un dérapage, ces gens vont être en prison. Et sur le plan de la sécurité, n'en déplaise aux ennemis, tout le monde savait que lorsque nous sommes arrivés, il y avait des tueries, des enlèvements en pleine journée. Il y avait des groupes comme les Popo Solutions qui sévissaient à Chimpoun d'ailleurs. Dès que nous sommes arrivés, d'abord nous avons mis en place un ministre sectoriel, le ministre Kahash Afokamaik, qui est un ministre brillant, qui a de l'expérience, qui est le meilleur élu grâce à ses performances sur le plan sécuritaire dans la province Sud Kivu. Eh bien, nous avons capturé plus de 145 criminels qui sont en prison. Nous avons arrêté même deux personnalités, deux magistrats du parquet qui sont en prison aussi, qui ont d'ailleurs, nous avons essayé de les transférer ici à Kinshasa. Donc, nous avons progressé dans l'arrestation des criminels. Nous avons aussi, bon, on peut citer, nous venons de signer un arrêté pour protéger le parc.
Il y a beaucoup d'actions qui sont menées.
Les salaires sont payés. Oui. J'ai dit aussi que les salaires sont payés. Il y a aussi lieu de dire que les députés sont payés à temps. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait 7 mois pendant lesquels ils n'étaient pas payés. Dès le premier mois, ils reçoivent 180 000 dollars américains le mois des dotations de la province. Et donc, ça sont des réalisations concrètes.
Ça, 80 000 dollars pour un député ou bien pour l'ensemble?
Non, pour l'ensemble.
Pour l'ensemble, justement, il fallait préciser. On revient à vous, monsieur le gouverneur, permettez que je prenne le toit de dernier auditeur.
Je dois dire ici aussi, je termine, en disant que, dans le cas de la bonne gouvernance, nous avons aussi sanctionné certains dirigeants qui n'étaient pas en règle. Nous avons suspendu toute la chaîne des dépenses parce qu'elle était dans la magouille. Nous avons suspendu la ministre en charge de l'économie, finances, industrie, commerce, ainsi de suite, parce qu'elle ne s'inscrivait pas dans notre logique de faire les choses de manière transparente. Et nous avons remplacé. Nous sommes en train de mettre en place un système de bancarisation, de numérisation, de guichets uniques et des réductions systématiques des taxes. C'est-à-dire, ceux qui vont commencer une activité commerciale à Bukavu, au sud Kivu, nous allons faire en sorte qu'ils aient deux ans, au cours desquels ils ne paieront absolument rien.
Voilà.
Le temps de promouvoir, d'améliorer le climat des affaires.
Voilà, on revient au standard et puis on va conclure avec vous, monsieur le gouverneur. Blaise Chitouli nous appelle depuis Bukavu, l'étudiant en sciences économiques et gestion. Blaise Chitouli, vous avez la parole.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, son excellence, monsieur le gouverneur de la province.
Oui, bonjour, Blaise.
Allez-y rapidement, Blaise, parce qu'on est presque à la fin. S'il y a des choses à ajouter par rapport à ceux qui vous ont précédé, allez-y.
Je voulais poser deux questions à monsieur le gouverneur concernant la situation de notre province.
Allez-y.
Concernant la route nationale numéro 2, quand le gouverneur voulait faire tendre vers Calais, il a prêté les chemins marins, donc il a utilisé les canaux rapides pour parvenir à Calais au lieu de passer par la route. Je voulais demander à monsieur le gouverneur, il pense quoi par rapport à la route nationale numéro 2, car l'état mauvais de la route cause à fait qu'il y ait plus de noyades et de retard avec les lacs qui vous.
Tout à fait. Voilà, merci Abdelaziz.
Dans la ville de Bukavu, nous faisons face à des tracasseries par la police, des soldats qui, au lieu de nous protéger, ils demandent de l'argent la nuit. Monsieur le gouverneur.
Oui, oui. Voilà, merci. Le gouverneur va réagir par rapport à vos préoccupations. Merci Blaise Chitouli d'avoir appelé. Depuis Bukavu, vous êtes étudiant en sciences économiques et gestion. On va à Lubumbashi pour écouter Alba. Alba, vous avez la parole.
Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, monsieur Alba.
On vous écoute, Alba, allez-y.
Ok, je voulais juste demander à monsieur le gouverneur qu'il puisse nous expliquer. Depuis que le gouverneur, et moi je veux me limiter juste au point de secteur minier. Parce que je suis à Lubumbashi précisément, j'ai été une fois à Colosie. Concernant les provinces dont on a beaucoup de minéraux, il y a des systèmes qu'on a installés par le gouvernement central. Et les autres disaient que non. Nous sommes les familles présidentielles, nous sommes les intouchables.
Mais on a évoqué cela, Alba. Dites-nous, c'est quoi exactement votre problème? Parce que le gouverneur a dit, pour ceux qui sont du Sud Kivu, vous n'en êtes pas qui Kishanlovo. C'est quoi exactement votre problème, comme son gain dit-on?
Le cas que moi je peux soulever, c'est le moment où le monsieur le gouverneur nous parle $1,500,000-$1,300,000,
oui.
Vraiment, c'est une honte pour la gouverneur, les provinces du sud de Kivu.
Voilà, Maître Patrick Audi avait relevé ça également, le gouverneur avait réagi par rapport à ça, mais il va encore y revenir. Merci Alba d'avoir appelé depuis le Lubumbashi, vous êtes aussi étudiant, vous êtes plutôt étudiant à l'université de Lubumbashi. On va en parler le tout dernier, c'est Christian Kassissi qui nous appelle depuis Kisangani. Christian, vous avez la parole.
Oui, bonjour cher journaliste et bonjour également à son excellence monsieur le gouverneur.
Oui, bonjour.
Jean-Jacques Pouroux. J'ai réagi parce que la thématique d'aujourd'hui me tient à cœur. Néanmoins, à mon humble avis, j'estime que cette procédure ou initiative du gouverneur, elle est subversive. Pourquoi elle est subversive? Parce que elle a tendance à perturber l'ordre établi. Pourquoi? Parce que il y a déjà des organes étatiques qui sont chargés de recevoir la reddition de comptes du gouverneur de province. Je cite l'Assemblée provinciale. Si aujourd'hui, monsieur Pouroux, lui préfère aller rendre compte dans un stade fermé, qui, du reste, n'a aucun effet juridique parce que ce n'est pas la population dans son entièreté qui doit écouter la reddition de compte du gouverneur, ça doit passer d'abord par le traitement d'une institution établie. Et donc, pour moi, je considère qu'il vise une seule chose. C'est dédouaner pour démontrer.
Voilà, merci. C'est un élément nouveau que vous avez ajouté. Merci à Christian d'avoir appelé depuis Kisangani. Le gouverneur, s'il peut réagir directement d'abord à cette intervention. On dit que c'est une façon subversive de faire le choix alors qu'il y a l'Assemblée provinciale à laquelle il faut rendre compte. Réagissez rapidement et puis vous allez conclure.
Oui, merci beaucoup. Je dois dire ici, je remercie d'abord cet auditeur parce que c'est la contradiction qui fait avancer les choses. La non-contradiction équivaut à l'amour. La réalité, c'est que cette mesure d'aller rendre compte à la population est une promesse que nous avons donnée. Et donc, lors de notre campagne pour l'élection comme gouverneur, devant les députés provinciaux, les élus du peuple, nous avons proposé ça comme programme et les députés nous ont vivement encouragés à aller rendre compte, à être plus proche de la population et à aller vraiment trouver des formules pour parler publiquement, pour montrer ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, les défis auxquels on est confronté et solliciter l'appui de cette population. Que lorsque nous sommes partis dans le stade de Kadutu et toutes les interventions que nous faisons en public, nous sommes accompagnés de tous les députés, de tous les bureaux, mais aussi de tous les députés, de toutes les autres autorités. Donc, ça complète les autres mécanismes de contrôle. Il n'y a pas de problème. On travaille en phase avec l'Assemblée provinciale sur ça.
Et rapidement, pour la route... je crois...
De Calais.
Oui,
je remercie...
Vous-même, vous avez pris un canot rapide, semblerait, parce que la route n'est pas en bon état. À bon état, répondez rapidement.
Oui, justement, j'ai pris un canot rapide parce que c'était le seul moyen d'y aller. Il faut dire que depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, cette route est coupée. Alors que c'est la route qui connecte Bukavu à Goma, environ 200 kilomètres. Je dois rassurer, j'avais pris l'engagement de faire le nécessaire pour essayer de corriger cela. Et nous avons pris des mesures que pour ceux qui les... Je voulais dire à cet étudiant que nous avons créé la société provinciale des infrastructures. Et cette société provinciale a bénéficié des équipements de la MONUSCO, donc des engins de génie civil. Et selon l'engagement que j'ai pris, nous avons amené tous ces engins au lieu dit chez les Français à Niabiboué, sur cet axe. Et cet axe est en train de tourner aujourd'hui parce que sur financement de la province du Sud Kivu, eh bien, cette route est en train d'être ouverte. Aujourd'hui, nos ingénieurs sont là et nous avons financé cet acte.
Monsieur le gouverneur, on a plus assez de temps. Peut-être rapidement, vous donner votre parole à la population que ce mode de gouvernance sera d'application tout au long de votre gestion à tête de la province.
Non, qu'il sera sûr. Rien ne va changer, quelles que soient les intimidations, la pression, ainsi de suite. Tant que nous avons, et comme nous avons l'appui de la population, du président de la République, de la première ministre, de nos autorités morales, de nos députés. Nous n'allons pas stopper.
Voilà.
Nous sommes sur cette lancée.
Voilà, merci beaucoup Jean-Jacques Pourroussi. Je rappelle, vous êtes gouverneur de la province du Sud Kivu. Merci d'avoir été des nôtres. Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique de production également qui a contribué à la production de ce magazine. On espère vous retrouver très bientôt dans un autre numéro. Des pauses auditeurs. Au revoir à toutes et à tous.